Bonjour et bienvenue dans Les mots qui délivrent, le podcast 100% belge qui parle d'écriture et de création. Tu vas découvrir à quel point les mots nous font du bien et peuvent même parfois nous sauver. Moi c'est Louise, je suis autrice, coach littéraire et bibliothérapeute. J'ai fondé Le mot qui délivre et le Slow Reading Club il y a quelques années. Dans ce podcast, j'interviewe des plumes qui ont décidé de s'emparer des mots pour dire, révéler la vie, l'humain, la créativité. Et parfois tout simplement juste pour aider et inspirer. Pour cette nouvelle saison, il y a une nouveauté. Tu peux maintenant faire partie de la communauté du podcast sur Tipeee. Mais c'est quoi cette plateforme? Eh bien, c'est une plateforme qui sert à soutenir le podcast, ainsi que d'autres créateurs. Et ce contenu que je crée avec le cœur, il pourra ainsi continuer à vivre sa vie durant plusieurs saisons. Tu peux ainsi l'aider à se développer en faisant un don, un tip, après l'épisode que tu as écouté. Et en échange de cela, tu as accès à des bonus ou à d'autres contenus inédits. Alors, après cette écoute, rendez-vous sur Tipeee. Le lien se trouve dans le descriptif de chaque épisode et sur mon Instagram. Ah, voilà, on respire, c'est parti. On va plonger dans de nouveaux échanges vibrants, passionnés. Parce que oui, les mots délivrent. Il suffit juste un jour d'oser exprimer. Aujourd'hui, je vous emmène découvrir l'univers de Thomas Médard, que vous connaissez probablement derrière les projets musicaux de Dansan et puis de Feather. Thomas est donc musicien, chanteur, mais aussi auteur de ses textes. Alors, par hasard, une fois, je l'ai rencontré près de l'école de mes enfants ou autour, et je me suis rendu compte que, ben oui, il est peut-être temps de lui poser des questions par rapport à la façon dont il écrit. Et puis, dans la discussion, j'ai découvert, heureuse surprise, que Thomas, avec sa compagne Lisbeth, était aussi derrière la création d'un livre jeunesse qui pourra sortir, évidemment, bientôt. C'est donc l'occasion d'aller découvrir son univers du côté de l'écriture, cette fois-ci. Belle écoute. Salut Thomas.
Salut.
Alors, comment ça va aujourd'hui?
Très bien.
Je voulais te remercier parce que tu as accepté mon invitation de t'interviewer dans le cadre des mots qui délivrent, un podcast qui est dédié à l'écriture. Et je te remercie parce que j'ai découvert par hasard que je sais que tu es musicien et tu auras l'occasion de te présenter. Mais je sais finalement, grâce à une petite entrevue qu'on a eue, que tu écris.
C'est ça, oui.
Alors, on va, grâce à toi, explorer ça pendant plusieurs minutes. Thomas, est-ce que tu peux te présenter avec les mots que toi, tu as envie de choisir? Comment tu as envie de te définir ici pour ce podcast et les personnes qui vont l'écouter?
Donc, comment me présenter? Donc, à la base, je suis musicien. Ça, c'est vraiment c'est l'essence de ce que j'ai fait de mon temps depuis ces 20 dernières années. C'est ce qui m'a pris le plus de temps et c'est là que je vais naturellement, c'est vers la musique. Ouais. Et la musique, mais la création de manière générale. J'ai toujours aimé explorer différentes choses. J'aime beaucoup, par exemple, l'image du montage vidéo, filmé. J'aime bien aussi toucher un peu à ça. J'aime bien aussi un peu faire des sites internet. Je fais du graphisme. J'ai toujours fait le graphisme de mes groupes, mais aussi d'une structure qui s'appelle Jaune Orange. J'ai fait ça pendant 15 ans. Je fais toujours le graphisme d'un festival de musique qui s'appelle le Micro Festival, à côté de la musique. Et depuis peu, l'écriture, ça a toujours été un fantasme. Je parle d'écriture dans le sens écrire des histoires ou alors écrire des propos de manière générale. J'écris mes textes dans mes groupes, mais ça, c'est encore une démarche qui est totalement différente de celle d'écrire un texte ou une histoire. On pourra en parler en quoi c'est différent plus tard, mais en tout cas, l'écriture, je ne me suis jamais senti légitime de le faire parce que je n'ai pas de formation à ça et j'ai l'impression que faire ça en DIY, c'est plus compliqué que d'autres choses. Le graphisme, on peut prendre beaucoup de temps pour peaufiner chaque détail. L'écriture, il y a quand même quelque chose de, je ne sais pas moi, de plus compliqué, j'ai l'impression.
Ah,
en tout cas, vraiment.
Comme ça,
ouais, vraiment.
Ah,
vraiment.
C'est chouette, on va pouvoir explorer ça ensemble, justement, pour avoir ton point de vue d'artiste multi, si je peux me permettre. Alors,
j'avais déjà essayé, en étant plus jeune, d'écrire des petites histoires, mais dès que je prenais du recul par rapport à ça et que je relisais, je trouvais que c'était une catastrophe. Et je me suis dit, ok, non, c'est beaucoup trop compliqué d'écrire. Ah. C'est un métier, c'est un truc qui s'apprend, il y a des codes. Et donc, j'avais mis ça de côté. J'avais mis ça de côté et j'y suis revenu par l'écriture de de livres jeunesse. Et ça, c'est différent, je trouve, parce que il y a un espèce de truc. J'ai l'impression qu'il faut épurer hyper fort l'écriture, simplifier, faire quelque chose de très direct et limpide, mais à la fois d'un peu fou, et d'essayer de se replonger un peu dans des émotions de l'enfance. Et
Bien sûr,
c'est
oui.
quelque chose qui était plus à ma portée que. Je sais pas que c'est moins exigeant que l'écriture dédiée aux adultes, même si les livres jeunesse sont aussi dédiés aux adultes, parce que c'est
Oui, oh
des
là là,
adultes
oui, bien sûr.
qui les lisent aux enfants. Et il faut que ça plaise autant aux grands qu'aux petits, d'une certaine
Et
manière.
ça suscite autant d'émotions chez les
Ouais,
adultes
c'est
que chez
ça.
les petits. Mais c'est intéressant parce que, évidemment, moi je viens par le canal de tiens, ce serait intéressant d'interviewer un jour un musicien, un auteur-interprète, etc. Et je tombe voilà, par hasard sur toi et le flash arrive. Donc je suis dans ce côté écriture de texte, de chanson. Et effectivement, tu as le mentionné, il y a un livre jeunesse qui a été
C'est ça.
rédigé, conçu, créé à double paire de mains, j'ai envie de dire à
Tout à
quatre
fait.
mains. On
Oui.
pourra en parler. On va y revenir. Tu as un souvenir, tu as l'évoqué, tu as peut-être des souvenirs de toi tester l'écriture. Tu parlais de quoi, t'avais quel âge alors, la première fois que tu dis, tiens, on va essayer de bricoler un truc avec des mots.
Je devais peut-être avoir, je sais pas moi, 13, 14 ans, quelque
Ah
chose comme
ouais?
ça. J'avais écrit une histoire, je me souviens, où à chaque fois que je terminais une série de pages, ça se terminait sur un, par exemple, je sais pas, j'ai un souvenir comme ça, une évocation à peut-être une scène de bagarre ou je sais pas quoi, avec une main en sang, et puis l'autre passage se. Donc, on passait à un autre chapitre où deux enfants se faisaient frères de sang avec. Et
Ah
il y avait à chaque
oui.
fois, du coup, un lien entre. Mais. Et j'avais envie d'arriver après à lier toutes ces histoires. Donc, en fait, les personnages qu'on suivait après étaient ceux d'avant. Mais, enfin, du coup, un truc un peu. Voilà. Un truc un peu. Je ne savais pas trop où j'allais, mais je voulais faire
Ouais.
quelque chose
Bah, tu explorais
de.
quoi.
Voilà, j'explorais, tout à
Parce que je
fait.
sais pas ce que t'en penses, mais dans la création, être artiste au sens large, j'ai l'impression que c'est de l'exploration de toute
Oui,
façon.
tout à fait,
À un
tout à
moment
fait.
donné. Et à
Ouais.
part ce début d'histoire qui avait l'air assez complexe, peut-être la complexité t'a peut-être un
C'était
peu
peut-être
freiné.
un petit peu ambitieux pour quelqu'un qui n'avait jamais écrit,
Et
ouais.
t'as de souvenirs où ça a été enterré dans l'œuvre comme ça, direct, je
J'ai
poursuis dans
toujours eu
la
des
musique.
carnets, en fait, des journaux intimes dans toute mon adolescence. Donc j'ai toujours
Ouais.
beaucoup écrit de ce que je ressentais, ce que je. Et donc ça a été aussi une expérience d'écriture pour moi.
C'est une forme
Mais
d'écriture,
c'est une
évidemment.
forme d'écriture. Mais voilà, c'est des carnets qui maintenant sont dans des boîtes en haut.
Tu les as toujours?
Je les ai toujours. Il y a quelques années, j'en ai réouvert un et je l'ai refermé au bout de deux pages. J'arrivais pas à
Mais
les lire.
j'ai envie de te poser une question par rapport à ça parce que c'est marrant, toi tu parles de. Je sens une sorte d'intimidation, de quelque chose qui est de. J'étais pas légitime pour écrire parce qu'il faut être formé, etc. Si je renverse la perspective, si moi je me positionne par rapport à la musique ou à la chanson. C'est tellement plus naturel pour moi d'écrire et de me dire en fait la musique, no way, quoi, laisse tomber, je suis pas légitime alors que j'adorerais pouvoir chanter, pousser la chansonnette, tu vois. Mais donc, c'est quoi le mouvement à l'intérieur qui te dit moi en fait la musique c'est ok. Je sais pas s'il y a eu un syndrome de l'imposteur ou pas à ce niveau-là, mais en tout cas, tu as persévéré, tu as poursuivi de ce côté-là. Et pourquoi l'écriture c'était si compliqué de se dire que tu es légitime, il suffit d'un carnet et d'un stylo, hein, et c'est parti.
En fait, oui, sûrement, sûrement. Mais en fait, la musique, il y a un côté où, depuis l'âge d'or de la musique pop, les Beatles, tout ça, il y a un côté, je trouve, où la musique, ça peut tenir en deux, une chanson peut tenir en deux accords, et n'importe qui se met derrière un piano peut mettre ses doigts sur les touches et très vite tomber sur un accord et un deuxième, et on peut faire une chanson très très vite. Et elle a pas besoin d'être compliquée pour être belle. Et justement, je crois que moi, en tout cas, mon travail de musicien depuis que je suis musicien, donc ça fait entre 15 et 20 ans si on prend vraiment les prémices de mes projets. Donc j'ai deux groupes, un qui s'appelle Dansan et l'autre qui s'appelle The Feather. Et j'écris aussi pour d'autres artistes. Enfin, voilà, j'ai fait pas mal de choses ces dernières années en termes d'écriture et dans des projets qui sont très différents les uns des autres. Mais en tout cas, quand j'ai commencé à faire de la musique, j'essaie de complexifier mon écriture pour essayer de faire quelque chose de cérébral, et la complexité pour moi était gage de qualité.
C'est ça.
Et plus j'avance dans les années, plus j'essaie d'épurer mon écriture pour essayer de faire quelque chose de plus simple possible, mais qui suscite de l'émotion et et où il se passe un truc. Donc j'ai l'impression, pour en revenir à la question, que le Graal, en tout cas moi, dans ma façon de concevoir l'écriture dans la musique, c'est d'arriver à quelque chose de le plus simple possible et le plus élémentaire et le plus émouvant possible en essayant
dans
de
ce
faire...
minimalisme,
voilà, c'est ça.
C'est ça, oui.
Et du coup, c'est un long travail, mais enfin, il y a quelque chose de très attractif dans la musique qui fait que quand on prend un instrument, très vite, on sait faire un truc.
Ouais.
Surtout avec des instruments comme la guitare et le piano. On sait vite, en une vidéo YouTube, savoir faire 4-5 accords. Et je veux dire, pour faire des mélodies, dans la majorité des chansons qu'on entend à la radio, c'est toujours les 4-5 mêmes accords qu'on entend.
Ouais,
et
vrai.
Ensuite, on peut essayer de les mettre dans des ordres différents et trouver des notes qui créent des petites tensions un peu différentes au niveau du chant pour créer des chansons. Mais j'ai l'impression qu'il y a un truc beaucoup plus direct. Si je me mets un soir avec ma guitare sur les genoux, je vais faire une chanson.
Et c'est parti,
mais non, est-ce que je vais la garder le lendemain? Est-ce que je vais me dire qu'elle vaut la peine de persévérer, de l'enregistrer, de faire des arrangements autour? Ça, voilà, pour 20 chansons que je vais écrire, je vais en garder un demi-refrain qui va être couplé avec un couplet le mois d'après. Et au bout de 2 ans, au final, je garderai 10 chansons sur les je ne sais pas combien.
Voilà. Comme les journaux intimes, où parfois on extrait des choses, ça peut donner
peut-être,
une histoire.
Peut-être. Mais en tout cas, au niveau de l'écriture, j'ai jamais eu ce déclic de me dire j'écris un truc, je le relis quelques jours après, j'ai envie de le garder. J'ai jamais eu envie de garder quoi que ce soit de ce que j'avais écrit. Alors qu'en musique, il y avait un truc plus naturel qui s'est fait. Peut-être que...
C'est intéressant, parce que j'ai une amie énergéticienne, elle parle de canal intuitif et qu'on a tous et toutes. On peut en avoir plusieurs, surtout si on est multi, etc. Mais un canal intuitif prédominant, ça veut dire que ce que j'entends dans ce que tu rapportes, c'est que probable, enfin, la preuve, ça fait 17 ans, 20 ans que tu es là-dedans, donc la démonstration est déjà faite, mais que ton canal intuitif serait a priori évidemment plutôt la musique.
Mais je pense que ce canal-là, je ne l'ai pas choisi, je l'ai pas choisi par... Ça m'est pas venu naturellement. Je crois qu'il y a un côté où j'ai éliminé les. En fait, je sais que dans ma personnalité, j'ai toujours voulu créer. C'est un besoin. Pour moi, une journée elle est un peu gâchée s'il n'y a pas un moment de création, d'une certaine manière. Je ne me le dis pas, je ne le conscientise pas, mais je le ressens comme ça. Et si pendant plusieurs jours, j'ai dû faire beaucoup de pratico-pratiques et que je n'ai pas fait quelque chose de créatif, je vais me sentir hyper mal. Quoi.
Ah, je comprends.
Mais c'est, voilà, ça ne s'explique pas, c'est vraiment quelque chose. Mais
c'est vital.
Oui, c'est vital.
Oui, tout à fait.
Et pendant l'enfance, il y a vraiment eu ce truc où mon frère, lui, était hyper doué en dessin, il l'est toujours. Et il a fait beaucoup de graffiti, à chaque fois qu'il prenait un crayon qu'il dessinait un truc, ça marchait tout de suite. Et je me suis pas permis de prendre le canal par exemple du dessin parce que il appartenait déjà à mon frère de la même manière que il était fan de Star Wars et je pouvais pas collectionner les personnages de Star Wars.
Quand je vois ça avec Gaston et Alphonse, chacun prend sa part. Ça se met même très tôt. Je vois qu'ils sont petits, ça se met déjà très tôt. Qu'il faut même un peu peut-être inconsciemment se démarquer, s'approprier quelque chose individuel, etc.
C'est ça.
C'est intéressant.
Et par rapport à l'écriture, à l'école, on m'a tout de suite dit. Je suis dyslexique, donc j'ai été voir des logopèdes, etc. Je n'arrivais pas bien à lire en classe, mon orthographe catastrophique, et je crois que j'ai été fort découragé par aussi tous les retours que j'avais en mode Thomas, le français c'est compliqué, l'écriture, je fais toujours des très longues phrases qui n'en finissent jamais. Et du coup, voilà, je crois que ça s'est écarté aussi d'une certaine manière. Genre, ça, c'est pas pour moi. Le dessin, c'est pas pour moi. Bon, qu'est-ce qui me reste? La musique, c'est... voilà, personne ne m'a dit que j'étais pas... Que c'était pas mon truc. Personne ne le fait dans la famille. Ok,
une
donc
place
je,
à prendre.
Je le prends et je fonce là-dedans.
Et
après, c'est,
c'est
l'expérience.
Et l'expérience. Et puis finalement, aussi une maturité émotionnelle, une maturité...
Oui, c'est ça. Et puis, il y a un moment pour chaque chose aussi.
Tout à fait. Oui, oui. J'en reviens à ça. Petite parenthèse par rapport à l'école. C'est vrai que au début de mon activité d'atelier d'écriture, d'accompagnement à l'écriture, c'est des choses que j'ai dû vraiment faire exploser à la dynamite. Beaucoup de gens me disaient « je peux pas écrire, j'ai de mauvais retours à l'école ». Et ce que tu amènes finalement, et je l'envoie pour les personnes qui nous écoutent aussi, parce que je sais que ça va leur parler probablement. Et puis j'ai été enseignante, et je peux voir le travers de l'autre côté. C'est une catastrophe quoi, pour tout cet élan créatif. Parce qu'on remet la grammaire, on remet la syntaxe, on remet les phrases... bien construite, c'est horrible parce que ça presse le citron et il reste plus rien de créatif qu'on a envie de garder.
Maintenant, j'espère que la manière dont on enseigne est différente d'il y a 25, 30 ans d'ici. Ce serait quand même pas mal, quoi. Bah, c'est un peu velours.
Heureusement, il y a des écoles où la créativité peut un peu plus s'exprimer.
Oui, oui,
On espère, j'espère avec toi vraiment. Revenons un petit peu à la musique maintenant, parce que la musique, tu parles de cette, c'est quand même un élan assez facile apparemment pour toi de composer, d'avoir des mélodies.
Oui, facile.
Naturel peut-être.
C'est hyper naturel, voilà. et j'ai tout de suite eu beaucoup d'encouragement de mon entourage qui m'ont donné beaucoup de confiance très tôt.
Ouais,
donc mon père est hyper, il a toujours écouté énormément de musique. J'ai toujours eu des tas de groupes des années 60, 70, 80, des trucs de qualité, c'est hyper subjectif, mais en tout cas des groupes qui sont un peu des grands classiques, mais qu'on n'a pas forcément dans toutes les maisons, Cosby, Stills, Nash & Young, des groupes comme ça, Pink Floyd, tout ça. J'ai eu des oreilles très tôt, mon père a toujours été hyper fan de musique, et le fait que nous... Enfin, que moi, en tout cas, j'ai commencé à en faire. Et tout de suite, il m'a dit, oh, c'est super, c'est génial. Et donc, il m'a donné beaucoup de confiance, je pense, et ma mère aussi.
C'est une base.
Et je crois que quand on a la confiance, après, il faut aussi être confronté à d'autres personnes qui vont te pousser à faire toujours mieux et à ne pas te reposer sur ce que je fais, c'est génial. Et non, pas du tout. Donc, j'ai eu aussi d'autres personnes qui m'ont donné ce genre de feedback-là. Et cet équilibre-là fait que j'ai pu continuer à la fois avoir confiance dans ce que je faisais, mais aussi conscience qu'il faut que je fasse mieux tout le temps, tout le
temps.
C'est
ça, oui.
En fait, dès que j'entends une bonne chanson, je me dis, ça me donne envie d'en écrire une autre, quoi.
Mais ça, c'est infini. Ouais. Tu parles de musique, je pourrais parler dans l'écriture. Quand tu lis un livre,
oui,
tu
voilà.
dis, tu notes la phrase, tu l'écornes. Ouais, ouais. Je peux imaginer, ma mère est artiste peintre, je peux le voir aussi en peinture, heureusement.
Ouais. Tout à fait.
À quel moment se rencontre alors ta composition de tes propres musiques, on va dire, tes propres mélodies et ce croisement avec écrire des textes. Tu situes ça à quel moment pour la première fois?
La première fois, c'est le moment où il fallait faire des concerts et enregistrer nos premières chansons. Mm-hmm. Parce qu'au final, moi, le plus important, ça a toujours été, et ça, c'est quelque chose qui a changé maintenant. Mais à la base, quand j'ai commencé à écrire des chansons, c'était écrire des mélodies, faire des mélodies de voix qui étaient le plus important. Écrire des textes, c'était secondaire. Fallait remplir.
C'est un peu l'habillage.
Fallait remplir. Je mettais un peu des mots et je m'en foutais un peu du sens. Ça n'avait pas beaucoup d'importance. C'est vraiment faire des mélodies qui étaient importantes.
D'accord.
J'ai toujours chanté en anglais aussi. Parce qu'il y a toujours ce truc de la simplicité de l'anglais, l'évidence des mots, faire une phrase. Prends toujours l'exemple de grands titres des Beatles. Si on traduit textuellement des refrains des Beatles, c'est qu'on demande à n'importe quelle personne de la variété française.
Tu peux conduire ma voiture, c'est bon.
ça n'aurait pas de sens. Donc l'anglais a cette liberté-là. Donc c'est pour ça, je crois, qu'on a choisi moi et mon meilleur ami Jérôme, et qui on a commencé à faire de la musique. On a vraiment commencé en binôme.
C'était avec Dan Sal ou c'était avant Dan Sal?
C'était avec Dan Sal.
Donc ça commence là vraiment.
Commence vraiment là. J'avais commencé un petit peu avant à chipoter, mais vraiment le fait de prendre ça plus sérieusement, c'est aussi le fait de se tirer vers le haut avec mon ami Jérôme.
Il y a des enjeux,
Et puis c'est bêtement ce truc de, il amène une chanson, j'ai envie d'en amener une, et j'en amène une, il a envie d'en faire une autre. Donc c'est, il y a aussi un truc où on se tire vers le haut comme ça.
Ouais.
Et donc, donc le choix de l'anglais pour pouvoir écrire simplement et aussi se cacher derrière les mots, pouvoir... dire des trucs, je me souviens, dans les premiers textes qu'on fait, il y avait beaucoup de gros mots. Je sais pas pourquoi, comme si le fait de mettre des gros mots, c'était cool, quoi. Et on a fait des chansons qui très vite sont passées en radio avec Dan Sam dans notre premier EP, avec des textes où il y avait des fucks dans tous les sens, des machins comme ça, et c'était pas du tout, il n'était pas question de... Je crois que même les programmateurs en Belgique se rendaient pas vraiment compte de ce qu'on disait dans notre texte.
Ah oui, donc c'est quand ils se cachaient derrière les mots en anglais, c'est ça, alors, en fait.
Ouais, et quand
j'ai... C'était mieux que putain ou bordel
passé. Mais c'est parce qu'on a commencé très tôt, et on était toujours vraiment des ados quand on a fait notre premier EP, qui a été pas mal soutenu, donc et quand je relis les textes qu'on faisait à l'époque, c'était n'importe quoi. C'est n'importe quoi. À partir du premier album, on a commencé à plus faire des textes qui étaient, on va dire, au niveau de l'anglais, plus corrects, et au niveau de la grammaire et tout ça, plus juste, mais toujours avec un sens. Moi, de nouveau, c'était pas encore le truc qui m'intéressait vraiment fort d'écrire des textes.
Mais alors, j'ai envie d'appuyer un peu sur pause
tard,
à ce moment-là, parce que c'est intéressant, parce que qu'importe les mots, qu'ils soient intéressants ou pas, qu'ils aient beaucoup de sens ou pas, il faut quand même les choisir, quoi.
Ouais.
Alors, quelles étaient les sources d'inspiration? Quel était le moment où, on se pose, il faut quand même poser quelque chose sur la
mélodie. En fait, c'est un truc qui reste toujours maintenant. C'est quand j'écris une chanson et que je sois au piano ou à la guitare, je commence à dire, il y a des mots qui sortent,
Ah
qui
ouais.
sont des mots en anglais et qui sont aussi des phrases, mais je suis pas libre de ce que ça sort tout seul, quoi.
Ah ouais. Et quoi,
Et
c'est induit par la
des fois,
musique
c'est
alors?
des fois, c'est des, oui, c'est bah, c'est des mélodies de voix qui fait des mots d'une certaine longueur, des phrases d'une certaine longueur qui vont fonctionner avec la mélodie de voix que j'ai en tête, quoi. Et des fois, c'est des phrases qui sont totalement, je veux dire, correctes au niveau de leur sens, des fois pas. Et donc, il y a toujours cette espèce de base de mélange de réel et de yaourt, quoi, qui est là, dans les mémos vocaux, parce que je fonctionne comme des dictaphones, quoi. Donc, j'enregistre des premières versions
Et pour
et,
capturer
pour
cette thèse, quoi,
capturer le
dire, quoi.
moment. Et il y a souvent des mots qui vont ressortir et qui vont rester et qui vont dicter le sens du texte, en
Et
fait.
comment tu les chopes? Parce que voilà, moi en écriture, en atelier, c'est ce que je dis, parfois il y a des trucs qui tournoient autour de vous et on décide d'aller en
Ouais, c'est
attraper. Enfin, moi j'ai
ça.
ce mouvement-là de les choper, d'attraper. Comment tu sais que tu chopes le truc? C'est une sensation dans ton corps? C'est des vibrations? C'est plutôt de l'intellect? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là?
C'est quand j'arrive à être en déconnexion totale avec le fait de conscientiser, de créer, que ça fonctionne. D'ailleurs, la plupart du temps, quand j'écris une chanson, il faut qu'il y ait du bruit autour de moi. Donc,
Ah ouais.
je sais pas me dire, ok, aujourd'hui je suis dans mon studio, je vais aller écrire une chanson. Allez, je mets, j'essaye. Je ne vais jamais réussir à écrire une chanson
Ah
comme
ouais,
ça.
c'est intéressant.
Imagine que je suis en. Molly est en train de jouer. Molly, c'est ma fille qui a 5 ans maintenant. Elle va être en train de jouer avec ces bonhommes-là. Lily, elle écoute un podcast. Elle est, je sais pas, moi, dans le salon. Et il va y avoir toute une vie autour de moi qui fait que je vais à la fois écouter ce qui se passe d'un côté, de l'autre, je vais regarder les jeux de ma fille, puis je vais m'asseoir au piano. Là, je vais commencer à jouer et je vais être attentif à plusieurs trucs à la fois et je vais commencer à jouer et je vais pas me rendre compte et il va se passer des trucs sans que j'aie vraiment le contrôle,
Ah ouais,
quoi.
c'est intéressant.
Et si je
Ah
suis
ouais.
tout seul, par exemple, un soir, et que. Alors là, je vais mettre une émission de télé et je vais commencer à jouer, je vais être à la fois attentif à ça, puis pas attentif. Et puis à un moment donné, je vais prendre le train en marche, c'est vraiment le point de départ.
L'impulsion, en
Et
fait,
puis
c'est
ensuite, il
ça,
n'y a plus
quoi.
rien
Ouais, l'autoroute
qui
est
existe
ouverte,
autour de moi.
ouais.
J'entends plus ma fille qui joue, j'entends plus le
Tu
podcast
rentres
de ma
dans...
copine, ou j'entends plus l'émission. Et là, je commence à être à fond dans la chanson. Et puis là, je commence à chercher. Et une fois que je suis dans le train, et là, il faut que je commence un petit peu à chercher, à me creuser, à trouver la
Ouais.
suite. Mais l'impulsion de
C'est le
départ,
basculement quoi, qui
c'est.
t'amène.
J'en ai pas le contrôle, quoi.
C'est intéressant
Et
parce qu'il y a
c'est pareil pour les
de.
premiers mots
Oui, voilà, pour
qui
revenir.
sortent, quoi. Là, je ne saurais pas te dire pourquoi ces mots-là sortent. Mais quasiment à chaque fois, je vais me dire, ok, j'ai dit ce mot-là, ah ben, c'est, je sais pas d'où ça vient, mais je le garde et je crée un texte autour.
C'est intéressant et ça me parle et ça évoque des réflexions en moi, c'est-à-dire que dans l'écriture c'est pareil, si je prends même mes propres textes, etc., je vois chez d'autres, il y a des mots, il y a même des phrases. Moi, pour avoir relu par exemple mon manuscrit 6 mois après l'avoir laissé dormir, tu relis une phrase et tu sais même plus te dire que c'est toi qui l'as écrite, tu sais même pas comment
Ouais,
c'est arrivé.
c'est ça.
J'ai une petite philosophie personnelle, ça me fait plaisir parce que j'ai entendu une interview de Benjamin Biolay récemment qui disait, tu peux demander à n'importe quel artiste comment ça vient. Il va toujours probablement donner te paraître un peu perché parce qu'il y a des choses, c'est comme si c'était le canal et que ça passait à
Ouais,
travers toi. Je sais
c'est ça.
pas comment tu te positionnes par rapport à ça, mais j'ai l'impression que, comme tu dis, je ne sais pas pourquoi ce mot-là, je ne sais pas comment ça vient.
Ouais,
Moi, il y a
ouais.
aussi des choses, je ne sais pas expliquer en écriture. C'est venu, c'est passé au bon moment, au bon endroit.
Alors
C'est
moi,
un peu magique, enfin, je sais pas, c'est
je
bizarre.
pense qu'il y a après en avoir, enfin, j'ai pas mal pensé tout ça aussi, à me poser ces questions, parce que des fois, tu te dis, ça fait 2 semaines que j'ai pas fait une chanson valable, comment ça se fait que j'y arrive pas cette fois-ci, quoi.
Ouais,
Donc, tu y
aussi,
penses et
dans
tu
la
essaies
remise en
de
question.
comprendre pourquoi des fois ça marche, des fois ça marche pas. Et je sais qu'il y a en tout cas chez moi, il y a des conditions qui font, quand elles sont réunies, ça va augmenter fort.
T'as pu identifier alors.
Ouais,
Ah,
tout à
c'est cool
fait.
ça, ouais.
Alors, je sais que maintenant, je ne fais plus que de la musique, mais avant, je travaillais dans un label de musique. Et je sais que quand j'avais des journées de travail où je faisais autre chose, où j'étais vraiment à faire des trucs, par exemple, très répétitifs, comme remplir des dossiers
Ouais.
ou faire de l'administratif et des choses comme ça, le fait d'avoir fait des trucs très, très concrets, ou même du travail manuel et tout ça, le soir, j'étais plus enclin à pouvoir avoir des trucs qui venaient. Alors que si j'ai toute une journée pour créer, là, tu vois, ou une belle semaine
Ouais,
devant
ça
moi
flotte
pour y aller,
bien,
ça
ouais.
ne, c'est, le fait d'avoir le, le. Je vais être beaucoup plus productif avec 10 minutes à la volée après avoir eu toute une journée où j'ai fait totalement autre chose, et cette envie là d'y aller.
Ouais, presque un peu le manque, en fait.
Ouais, c'est ça. Et si j'ai 10 minutes, ben là, il va se passer un truc que si j'ai toute une journée devant moi, ben là, il ne se passera rien.
C'est intéressant et j'entends très souvent. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui, pour moi, est du domaine de... Tu as besoin de nourriture, tellement de nourriture extérieure, que ce soit du bruit, des rencontres, tu dis même du travail manuel. Et moi, j'appelle ça la vraie vie, c'est un peu simpliste, mais t'es dans la vraie vie, quoi. Il se passe des choses, t'es dans le mouvement, t'es dans l'échange. Et je peux tellement imaginer ce moment. Et finalement, parfois, j'ai même cette frustration de me dire, bordel, c'est en train d'être dans ma tête, et je peux pas, je travaille, je prends les gosses.
Ouais, c'est ça.
Et alors, quand ce moment est ouvert, t'as le geyser qui est un peu, peut enfin s'ouvrir. Et j'ai l'impression que c'est ça que tu es en train d'amener.
Tout à fait.
C'est intéressant parce que tu parles musique, je parle d'écriture. Finalement, il y a peut-être des processus créatifs qui sont assez similaires.
C'est de la création dans les deux cas, quoi. Il y a aussi des si par exemple pendant une semaine je suis contraint de pas pouvoir toucher un instrument, ça va être super pour après, parce que le fait de je vais avoir cette il y a des trucs qui vont sortir mais tout de suite mais alors là quelles que soient les circonstances, je souvent si ça fait une semaine que j'ai plus touché mon instrument, ah ben là il va tout de suite y avoir une chanson qui
c'est
va sortir.
Génial. Oui. Et moi, pour moi, c'est génial au sens de quand tu reprends génial, du génie, quoi. Alors vraiment, dans un terme qui n'est pas du tout mégalomane, mais le génie, le génial, c'est ça.
C'est
superbe. C'est marrant parce que j'entends vraiment des processus assez similaires, avec des pratiques quand même différentes, mais il y a quelque chose qui est peut-être un peu naturel, universel. Moi, je sais que là, parfois, j'écris dans ma tête, quoi. Je dis, ça fait une semaine, deux semaines, même parfois, où j'ai pas écrit et ça me démange et tout, mais je me calme en me disant, c'est, de toute façon, c'est déjà en train de se faire là-bas.
Ouais, tout à fait.
Et effectivement, quand tu peux ouvrir ton PC ou ton carnet, ça se délivre.
Ouais.
C'est passionnant de pouvoir discuter.
Mais il y a des musiciens comme ça aussi qui arrivent à. Moi, c'est pas mon cas, il me faut un instrument pour que ça sorte, mais j'ai déjà discuté avec des compositeurs qui, eux, c'est dans le bus, par exemple. J'ai un copain qui m'a déjà dit ça une fois. Moi, quand je suis dans le bus, la plupart de toutes les chansons que j'ai fait pour ce disque-là, c'est je suis dans mon long trajet de bus, j'ai des mélodies qui me viennent, je les chante dans mon dictaphone et je reviens et je les refais sur. Comme si le bus était un endroit où il y a plein de vie autour de toi, tu peux écouter une histoire là, une histoire là, machin, et puis ensuite, tu t'évades.
Les bus, les transports en commun, cafés, moi j'ai toutes mes plumes que j'accompagne, que je coach, allez dans des cafés, posez-vous, allez à Saint-Folien, voyez du monde, etc. Je sais pas si tu connais Julia Cameron qui a écrit Libérer votre créativité, qui est une sorte de grande prêtresse. Bon, c'est un peu américaine, mais c'est une ex de Scorsese. Elle a vraiment débloqué la créativité chez plein de gens, etc. Et elle parle des moments blancs. Et ces moments blancs, elle dit Spielberg, par exemple, il a pensé à écrire le scénario de E.T. Il est dans les bouchons à L.A., quoi, tu vois. Elle décrivait en fait ce que tu es en train de décrire. Et je pense que ce qu'on vit beaucoup en tant que créateur, quoi, c'est de que ce soit la musique, les enfants qui jouent, le bruit, ces moments blancs. Surtout comme tu expliquais après ce tunnel dans lequel tu rentres, c'est hyper propice à ça, effectivement. Et t'as un exemple, une manifestation que c'est le cas. Donc, c'est cool que tu puisses l'amener parce que je sais qu'il y en a qui écoutent et qui se disent tiens, si ça m'arrive, c'est ok, garde la confiance, ça va arriver.
Tout à fait.
Parce qu'au début, on tâtonne un peu, quoi. Je sais qu'en écriture, certains. Ils savent pas trop, ils tâtonnent, mais si déjà tu leur envoies des petits tuyaux comme ça, ça leur fait.
Mais en fait, je crois qu'il y a aussi un truc qui est. Enfin, deux trucs qui sont aussi hyper importants, c'est le fait de se nourrir énormément. Je trouve que ça, c'est. Moi, quand je vais voir des concerts ou que j'écoute de la musique, c'est vraiment. Ça me booste, ça me donne de l'énergie et puis ça nourrit mon écriture aussi.
Bien sûr.
Je veux dire, je vais apprendre à chaque fois que. C'est pareil, à mon avis, si on lit des livres aussi.
Rencontrer des auteurs.
Et ça, c'est. Je crois plus tu es curieux, plus tu vas être créatif, quoi. Plus tu vas te nourrir, plus tu vas être créatif. Et faut pas se forcer, faut que ce soit aussi
une impulsion, une envie.
Et il y a aussi un côté où il y a beaucoup de personnes qui veulent écrire des chansons pour pouvoir avoir des chansons et les faire exister, aller en concert, rencontrer un public, avoir du succès, des choses comme ça. Je crois que il faut d'abord écrire pour soi, pour la sensation que ça nous procure.
Carrément, et la vibration. Moi, je parle de vibration.
Tout à fait, la vibration.
Les vibrations, ça circule, j'en suis
quand
sûr.
Quand on écrit une chanson, et ça doit être pareil, et qu'on fait quelque chose, on dit « Waouh !» Je suis vraiment très content de ce que j'ai fait.
Ouais.
C'est une sensation qui, en tout cas, moi, ce que je recherche à ravoir. C'est un peu mon adrénaline, mon shoot de drogue à moi.
C'est un shoot, hein.
C'est vraiment aller essayer de... Et je crois que c'est l'essence même, quoi. Mm-hmm. C'est pouvoir se mettre à écrire pour le fait d'écrire et pas pour avoir une chanson. Donc le but, c'est, la finalité, ça doit pas. Pour ça, je, donc ma compagne à qui on a écrit un livre, ouais, je suis hyper admiratif d'elle pour ça. Elle écrit énormément. Enfin, elle dessine énormément dans ses carnets et 95% c'est pour elle qu'elle écrit, qu'elle dessine et elle va dessiner à un moment, elle va juste le garder pour elle et quand on a des discussions autour de ça, elle pourrait faire un bouquin juste pour l'avoir fait et pas forcément pour le partager ou qu'il se vende. C'est vraiment juste pour le fait que ça existe et pour le, ce que ça lui a procuré de faire sortir des et ça, je trouve que c'est la bonne démarche. C'est le truc qu'il faut essayer de trouver et c'est peut-être le truc qui se perd aujourd'hui en tout cas dans la musique, le nombre d'artistes qui rêvent de célébrité, de followers, de communication et non, faut rêver de faire des chansons si on veut faire ce métier-là.
C'est quelque chose d'essentiel parce que tu nommes Lisbeth dans l'illustration, toi c'est la musique, ici c'est l'écriture. Et moi, je sais que quand quelqu'un vient en accompagnement, j'ai envie d'écrire, etc. Le premier rendez-vous, c'est qu'est-ce que tu veux faire. Il y a peut-être que 1% qui me dit j'ai envie d'être publié, quoi. Les 99% c'est ça, quoi. Écrire pour soi, on verra. Pour se faire du bien, pour vibrer, pour se reconnecter à cet être créatif qu'on oublie tellement.
Mais ça m'étonne que tu me dises que 99% sont dans la bonne démarche. J'ai l'impression que...
En tout cas, dans la communauté du mot qui délivre, je me sens hyper privilégiée, c'est le cas. Évidemment, peut-être au deuxième ou troisième coaching, il y a peut-être des choses qui vont se dire, ouais, pourquoi pas, mais dans l'idée de partager, tu vois, de transmission et pas de résultat. Bah, tu parles justement de l'écriture avec ton amoureuse, ta copine, Lisbeth. Est-ce que tu veux dire une dernière chose par rapport à l'écriture de chansons? Est-ce qu'il y a des thématiques quand même ou des choses qui t'inspirent plus que d'autres?
Peut-être pour clôturer, comme je te disais, avant, je ne me donnais pas vraiment beaucoup d'importance et c'est vraiment un truc qui a hyper fort changé maintenant.
D'accord.
Et maintenant, écrire est devenu... Je prends autant de temps pour écrire mes textes que mes chansons.
Ah,
et
ça a évolué, vraiment.
Ça a vraiment hyper fort évolué. Et il y a cette envie et ce besoin maintenant de raconter vraiment des choses, d'explorer... des thématiques et donc c'est un truc qui a vraiment fort changé ça et et maintenant l'écriture en anglais c'est vraiment autre chose que l'écriture en français et ce que je pensais être plus simple est en fait beaucoup plus compliqué parce
mais l'anglais
que,
a l'air simple au départ mais c'est vrai quand on rentre dedans
c'est très compliqué il y a les idioms c'est des phrases qui sont un peu comme des expressions en anglais qui font qu'en fait les mots connectés les uns aux autres vont avoir un sens. C'est exactement pareil que pour nous, un mot va être détourné dans son contexte et va avoir un autre sens. En fait, c'est la langue anglaise est évidemment truffée de choses comme ça. Donc, pour pouvoir se familiariser avec ça, c'est un énorme travail d'apprentissage de la connaissance de cette langue. Et, moi, l'écriture me permet justement d'améliorer mon anglais toujours. Et
tu lis en anglais ou tu écoutes beaucoup en anglais?
J'écoute énormément en anglais, je lis beaucoup en anglais aussi.
Ouais, voilà, c'est ça.
Il y a cette envie de me perfectionner dans mon apprentissage de l'anglais parce que ça me passionne le fait de pouvoir être de plus en plus à l'aise avec cette langue. Et de pouvoir écrire des textes qui pourraient être perçus de manière... Là, j'ai travaillé avec un Américain sur mon dernier disque. J'ai travaillé mes textes avec un Liégeois qui a vécu des années aux États-Unis. Donc, moi, je travaillais les premières boutures de textes et on les retravaillait ensemble. Et le résultat de ce travail, quand je l'ai confronté au regard d'un natif, il a eu rien à redire. Et pour moi, c'était déjà un super cap de passer. Et voilà, c'est à chaque fois un challenge et une envie de pouvoir, dans mon écriture en tout cas, toujours de pouvoir parler de choses qui me sont arrivées, c'est toujours des autobiographies.
C'est intéressant que tu l'amènes,
toujours.
C'est une démarche.
Mais j'essaie d'en parler de manière très très générale pour que la personne puisse se dire ce sentiment-là, je le connais, je l'ai déjà ressenti.
C'est un peu opaque ou on comprend très vite ton propos
Ça dépend des thèmes. Quand les thèmes sont. Quand c'est des thèmes que je ne suis pas encore prêt à On a tous un peu de tiroir des choses, que ce soit des traumatismes ou des choses dont on n'arrive pas encore à parler librement. Bah là, je les camoufle hyper fort, j'en parle quand même, je les camoufle. Et si quelqu'un, à un moment donné, va me poser la question, je vais du coup avoir une discussion avec cette personne-là, de personne à personne, et ce sera chouette. Et d'autres thèmes quand je suis plus dans l'universel, là je vais pouvoir parler de manière beaucoup plus. Mais il y a quand même beaucoup de métaphores et beaucoup de. Je me cache quand même pas mal.
Ouais. Parce que j'écoute un de tes textes, je les ai écoutés dans les chansons et ça, je me permets de poser la question parce qu'effectivement, parfois on sent que c'est plus. Oui, camouflé ou en tout cas dans l'implicite, il y a une deuxième ou une troisième ligne de lecture et dans d'autres, on sent. Et aussi grâce à l'anglais, tu vois, on sent que c'est plus direct.
Oui, tout à fait.
Et c'est vrai qu'on sent un peu les deux, quoi. Donc,
c'est ça, il y a vraiment les deux.
Et maintenant que tu écris tes textes, quel est ton sentiment? Est-ce que c'est quand même encore laborieux? Parce que j'entends le challenge, le fait de travailler la langue, etc. Est-ce que ça reste laborieux? Ou est-ce que, comme la musique, mais pas pour comparer en termes d'intensité, mais est-ce que, comme la musique, t'es dans le plaisir aussi de pouvoir écrire, quoi, vraiment?
C'est les deux. Les deux. Il y a le plaisir, parce que c'est comme un puzzle. Moi, quand je fais un texte en anglais, il y a vraiment. Je sais que j'ai envie de parler de ce texte-là, donc je vais me faire une petite valise de mots que j'ai envie de placer dans mon texte pour pouvoir. Exprimer le propos que j'ai dans ma tête.
C'est ça.
Et après, il faut que je fasse rentrer, parce que mes mélodies de voix sont hyper importantes. J'ai pas envie, s'il y a X syllabes dans une phrase, il faut pas qu'il y en ait une de moins. Et puis ensuite, il y a des accents toniques. Donc, il y a certains mots que je peux pas faire rebondir comme je veux par rapport à la mélodie que j'ai. Donc, c'est assez compliqué de faire rentrer les pièces et puis d'avoir.
Il y a la méthode quand même.
Donc, c'est un truc, c'est beaucoup, beaucoup de travail. Alors que la musique, quand j'écris de la musique, c'est pas du travail pour moi. C'est juste. C'est hyper naturel. C'est un truc, même quand je fais des arrangements, je réfléchis même pas. Je fais un truc, puis en faisant un truc, je suis en train de penser au suivant, puis j'y vais et ça coule. Écrire les textes, c'est vraiment.
J'entends que c'est plus technique, en fait.
Ouais, c'est beaucoup plus technique parce que c'est l'anglais est un instrument, est peut-être l'instrument le plus complexe que j'ai entre les mains, en fait.
C'est ça, ouais. Donc la maîtrise doit.
Et peut-être qu'un jour, dans 10-20 ans, je serai plus à l'aise avec cet outil-là.
Ouais.
Et les textes seront beaucoup plus intuitifs, peut-être.
Ceci dit, je ne suis pas certaine que ce soit plus évident en français.
Non. Pour autant. Non. Mais, j'ai déjà essayé, j'ai laissé tomber.
T'as laissé tomber C'est intéressant, ça va t'explorer un peu.
À peine, un petit peu. Et puis même ma voix, ça marche pas en français.
Ah, ça je peux comprendre.
Pas
pour avoir vécu aux États-Unis aussi, m'entendre parler en anglais, je vais pas dire fluent, mais presque dans ce bain linguistique naturel, et puis t'entendre parler en français, les grains, les octaves, la tonalité.
J'ai récemment un ami qui est flamand, qui a écrit la musique d'une pub en anglais et qui m'a demandé de faire la voix française pour sa pub. C'est une belle chanson à la guitare, donc j'ai dit oui. Et je l'ai fait, donc on travaille un peu le texte ensemble, je l'ai chanté, une première version, une deuxième version, une troisième version, et à chaque fois, les personnes en face, donc tous les gens du marketing disaient qu'ils me demandaient de recommencer, ça n'a jamais marché, et je comprenais, parce que je trouvais que ça n'était pas beau non plus, mais j'essayais vraiment de faire de mon mieux, ma voix ne fonctionnait pas. Et il a demandé à un autre chanteur, le chanteur de Mudflow, de le faire à ma place après. Et j'ai écouté la pub, je me suis dit, mais oui, c'était le bon choix. Lui, ça marche à fond. Moi, c'était une cata, c'était nul.
Mais c'est ça aussi, en tant qu'artiste, avoir conscience de, entre guillemets, humblement de ses limites, de ce qu'on est capable de faire ou pas, c'est clair.
Ouais.
Ah bah super, merci Nadja. Moi, j'apprends plein de choses par rapport à. Enfin, je réalise que l'écriture d'une chanson, c'est encore très différent de cette écriture. Voilà, toi, quand tu es dans musique, c'est naturel et facile. Mes textes et les textes des plumes, je pense que c'est comme ça. Là, j'entends qu'il y a vraiment de la technique, la maîtrise. Qui a vraiment
quand c'est l'anglais, c'est sûr.
Ouais. Est-ce que tu es d'accord qu'on aille maintenant de l'autre
côté? Tout à fait.
C'est pas vraiment un grand écart, mais on va basculer. C'est quand même un super projet que j'ai découvert avec beaucoup de joie et d'enthousiasme. Maintenant, tu es aussi auteur, co-auteur, avec Lisbeth, d'un livre jeunesse qui vient se terminer et boucler ici cet été. Hein,
c'est ça.
Qu'est-ce que tu es OK de dévoiler déjà ici dans ce podcast par
donc,
rapport à ce projet?
C'est un livre dont le titre pour l'instant, c'est La Collection. Maintenant, c'est un titre qui va peut-être évoluer avec le temps parce que, voilà, livre, tant qu'il n'est pas imprimé, il y a des choses qui peuvent changer, évoluer. Et c'est à la base du projet. Donc, on avait envie, lors d'une discussion, souvent, on a ces petits moments avec ma compagne, on se fait des petits restos et puis on discute de plein de choses. On avait envie de faire un projet de livre jeunesse ensemble. Et je pense que c'est Lily qui est venue avec cette idée. La thématique des collections, c'est quand même marrant. Moi, dans ma famille, j'ai plein de collectionneurs. Mon père, mon frère, c'est vraiment une famille de collectionneurs. et on trouve l'univers, on aime bien faire des brocantes et ça, et on voit il y a vraiment des farfelus, quoi, des outsiders, etc., qui qui baigne dans ce truc de collection. Et puis tous les enfants ont eu un moment donné dans leur vie, et pas tous en fait, c'est ça,
c'est
quand
vrai.
Je dis tous,
mais
il y a des enfants qui n'ont jamais eu de collection, et je trouve que c'est un apprentissage assez chouette, la collection, de ça permet de comment dire, de se construire, de travailler un peu son individualité, de se démarquer des autres enfants, d'avoir un peu son truc à soi,
c'est ça, ouais.
De faire attention à ces choses. Enfin, il y a tout, enfin, au niveau
et
de l'apprentissage,
vois, la
c'est vraiment
aussi.
Chouette, quoi.
Il
oui, oui, la rigueur.
Gaston, c'est un grand collectionneur aussi. Je
ouais,
vois
ouais.
Et ça crée une sorte de d'ordre intérieur, quoi. Qui,
ouais,
en fait,
voilà,
structure aussi
ça
la
structure,
pensée.
Tout à
enfin,
fait.
Je me permets de.
C'est
de,
tout à fait vrai. Voilà, c'est vraiment ça. Et du coup, on trouvait le thème intéressant. Et oui, il y a des enfants qui n'ont pas de collection, qui sont pas dans. Il y a des familles où il n'y a pas forcément cette notion-là, en fait, où personne n'a vraiment embarqué là-dedans. Et donc, et une collection, ça peut se faire. Et c'est le cas dans notre livre. C'est une petite fille qui ramasse des morceaux de bois en Y, parce qu'il y a un Y dans son prénom, et c'est ça sa collection. Donc, c'est pas forcément aussi quelque chose de. Où on doit acheter dans des magasins tout des bonhommes de telle marque, de tel truc. Une collection, c'est simplement un objet où on va décider qu'il a de l'importance plus qu'un autre objet, des choses qu'on peut trouver, des choses qu'on peut fabriquer. Donc voilà, donc on avait envie de parler de ce thème-là. Et à la base, on voulait juste faire une galerie de portraits de collectionneurs un peu farfelus, de faire un petit texte, une illustration où on montre un collectionneur comme un recueil. Voilà.
Ouais.
Et donc, on a commencé une première bouture du projet comme ça, où moi, j'écrivais les textes à chaque fois entre 4 et 6 phrases, en essayant de mettre en boîte comme ça ce personnage, de lui donner plus de substance possible, de lui donner un côté fou, marrant, et de raconter une petite histoire en 4 ou 6 lignes. Donc, c'est quand même un petit challenge aussi, quoi.
Hein.
C'est un exercice.
Ah, ouais, vraiment, ouais.
Et que ma compagne l'illustre, donc.
Et donc, ça partait de toi, parce que je pense, Quentin Grébon, par exemple, Hélène Delforge, qui sont aussi dans le travail. Quentin Grébon, il fait les. Non. Hélène Delforge. Non, Quentin Grébon fait l'illustration, et Hélène Delforge fait un texte sur l'illustration.
Ah,
là,
oui.
C'était l'inverse, alors. Tu faisais le texte d'abord, et puis Lisbeth faisait l'illu. Comment ça s'est passé? Ou c'était pas si.
Alors, je pense que la manière dont ça s'est passé, c'est lors d'une de nos discussions, on s'est dit, tiens, ce serait chouette de. Un collectionneur de ça, ce serait marrant. Et pourquoi pas un collectionneur de ça, et pourquoi pas ça. Donc on a comme ça, on s'est fait toute une liste de collectionneurs. Tiens, ce serait marrant qu'il collectionne des cailloux. Tiens, ce serait marrant qu'il collectionne des poissons, mais qu'il n'y ait plus de place dans son bocal, donc il va inonder sa chambre. Ouais, super. Et du coup, on parlait de dans des discussions, on a comme ça dit, ok, ces idées-là, c'est nos préférées. Et moi, j'essaie de faire un texte en partant de donc le collectionneur de pierres. Pourquoi est-ce qu'il collectionne les pierres, comment il s'appelle, c'est un garçon, c'est une fille, c'est un vieux monsieur, c'est un enfant. Et du coup, ça, c'est ma partie. Donc, je vais écrire un truc, je vais le faire lire à Lily, et elle va me dire « Ah, tu es super, bonne idée ça, ouf, ça manque peut-être un peu d'eux. » Et puis, je réécris. Et puis ensuite, en fonction du texte, elle va mettre en image le résultat de cette réflexion qui est à chaque fois un ping-pong. Maintenant, c'est moi qui vais écrire, réécrire, mais les idées sont à chaque fois des choses.
C'est vraiment un travail à quatre mains, j'entends.
Ouais,
parce
complètement,
que j'entends vraiment
complètement.
La pouvoir du brainstorming,
de
l'échange
c'est ça.
Qui stimule.
Ouais,
en
tout à fait.
J'imagine
c'est
qu'en
ça.
Musique, c'est pareil avec un groupe ou d'autres, cette capacité à voir émerger des nouvelles idées qui sont un peu le mélange des deux.
C'est
quoi.
Ça. Maintenant, je me suis jamais retrouvé à. On a une table, on discute et j'écris en même temps qu'on parle. Tiens, qu'est-ce que tu penses de ça? Ça, non.
D'accord.
Et j'ai écrit la plupart des textes. Quand je partais en tournée avec mes groupes, on se retrouve avec des journées, des fois entières, dans des vannes pour aller d'une ville à une autre.
Ah ouais?
Et là, j'ai vraiment écrit la plupart des textes dans le camion avec mon ordinateur.
Ouf, donc déjà, tu sais écrire en transport, toi. Parce qu'il y en a qui ont le mal transport.
Ah, ouais.
Donc déjà, tu savais faire
ça. Je sais lire et écrire en transport.
Ah, c'est bon, ça. Ah, je rêverais parce que moi je ne sais pas. Donc tu
c'est les moments que
le
je préfère.
C'est presque cinématographique hein, comme image.
Oui, tout à fait.
Le
tout à fait.
Gars qui est en train de gratter. Dans...
Ah oui, c'est ça.
Donc c'est comme ça que la plupart des textes du projet se sont écrits.
La plupart des textes de cette première bouture du projet, parce qu'on dit mouture ou bouture ce
Mouture, oui. Mouture, c'est pour les plantes, mais c'est une belle image.
Je me trompe tout le temps d'un mot un peu voisin avec un autre.
Quelque part, mouture, j'aime bien, tu vois, parce que c'est plus poétique finalement.
C'était fait exprès. Et donc, ça, c'était la première mouture du texte, parce que ça a évolué. On s'est rendu compte, en fait, que cette série de galeries, il manquait un fil rouge, un truc qui les liait les unes aux autres. Et on avait envie que le livre soit plus un voyage qu'une succession de... On trouvait que c'était, pour l'enfant en tout cas, il manquait d'un fil rouge. Et donc, on a eu cette idée de créer deux personnages qui vont vivre un moment de la vie de tous les jours. Mm-hmm. Et pendant cette balade, parce que c'est une balade, et ces deux personnages, c'est une petite fille et sa grand-mère qui va la chercher à l'école et qui, sur le chemin du retour entre l'école et la maison de la grand-mère, vont avoir ces discussions autour des collections. Donc, il y a vraiment ce lien intergénérationnel de ces deux personnages-là. Qui vont se raconter des histoires, se faire rire l'un l'autre. Et du coup, la grand-mère, qui est un personnage hyper excentrique, qui a des chaussettes de différentes couleurs, qui est très théâtrale, comme ça, un peu... Elle nous a été inspirée par un personnage dans une série, et tu vas voir que je ne vais pas retomber sur... Si, c'était The Maid.
Ah oui.
Tu as vu cette série?
Ah oui,
McDonald.
Voilà, la mère de...
C'est
la...
ça.
Ah oui.
Voilà,
ah oui.
qui est hyper excentrique, avec cette grosse chevelure blanche. Et d'ailleurs, notre personnage a cette grosse chevelure blanche.
Maintenant, parce que tu m'as montré les images, j'ai eu la chance, beaucoup de privilèges de voir déjà cette mouture. Effectivement, maintenant, je vois le personnage de la grand-mère. Et c'est aussi Andy McDowell. Je vois clairement l'inspiration. Ouais, magnifique. Ouais.
Et donc, il y avait cette envie de créer ce personnage hyper excentrique, très théâtral, qui va du coup raconter... ces portraits de collectionneur à sa petite fille qui va à chaque fois, du coup, nous, notre lecture en tout cas du projet, c'est que les images qu'on voit des galeries de personnages, c'est l'image mentale que se fait la petite fille de ce que lui raconte sa grand-mère. Donc, c'est l'imagination de l'enfant.
C'est imaginaire, quoi. En fait, c'est toujours hyper foisonnant.
Et du coup, ça fait des illustrations délirantes avec qui est totalement.
Je confirme, c'est merveilleux.
Totalement pas réaliste.
Je disais à Thomas, j'ai hâte de pouvoir le mettre dans les mains de mes petits garçons. Donc, c'est vous dire vraiment. C'est intéressant parce qu'on voit aussi que c'est évolutif, comme la chanson, comme composer des choses, etc. Ouais. C'est très évolutif. Tu parles d'une première idée, une galerie.
C'est ça.
Et j'ai l'impression qu'on remet à chaque fois des épaisseurs, tu vois. On met des épaisseurs pour que le truc devienne encore plus subtil, plus fin. En tout cas, moi, le résultat que je viens de voir, il m'a l'air vraiment topissime. Mais c'était intéressant que tu m'expliques en amont ces différentes étapes.
À fond. Et je crois qu'il faut s'arrêter le moment où... Enfin, j'ai l'impression qu'il faut... Tant qu'il n'y a pas le déclic, il faut continuer à chercher. Même si c'est pas... Et puis des fois, on a le déclic et on se dit, cette fois-ci, on y est. Ah oui, on y est. Mm-hmm. Et puis après, on prend du recul et on se dit, je crois pas. En fait, on n'y était pas. Il faut... Même si c'est dur, parce que des fois, on tombe un peu de... On est découragé, on se dit... on recommence alors machin, il faut persévérer et il faut que le sentiment d'accomplissement et de boucler tienne le temps du recul. Et à un moment donné, il va tenir le temps du recul.
J'aime
et c'est à ce moment là et à ce moment là il faut réussir à lâcher prise, parce qu'on a toujours envie de retravailler le truc. Mais à un moment donné, il faut se dire ok.
Mais c'est une très bonne question, parce que justement tu l'amènes. J'ai des plumes qui sont en train de finir des projets, il y en a qui les ont finis, moi-même j'ai fini le mien, et la question ultime qu'on a déjà pu me poser, c'est à quel moment on sent que, même en coaching, je dois parfois accompagner, pour de là, lâche prise, j'entends ce mot-là. Mais toi, ton tips, c'est quoi? C'est quoi ton tuyau de dire là, après avoir exploré, avoir remis en question, à quel moment on lâche, quoi? Parce qu'il faut, il faut.
Alors, il y a pour moi deux, il y a le luxe du recul.
Ouais.
Ça, il faut l'avoir. Parce
la patience.
La patience, mais il faut arriver à lâcher le projet pendant quelques semaines, un mois, et puis se replonger dedans et voir le sentiment qu'on a, le premier goût en bouche là, qu'on a quand on l'a, et savoir s'il est plutôt positif ou pas. Et nous, ce qui a été aussi assez décisif, c'est trouver une personne ou deux de confiance. Il ne faut pas commencer à l'envoyer à 10 personnes, parce qu'on va avoir 10 avis différents fatalement. Il y a des personnalités qui vont pas peut-être oser dire des choses qu'on n'a pas envie d'entendre, etc. Donc je crois qu'il faut vraiment choisir des personnes qui vont être une personne ou deux, qui vont être honnêtes, dont on sait que la vie va être nourrie de l'expérience ou tout ça. Et confronter son travail une première fois, c'est vraiment un truc hyper important, même si on en a un stade de transition, etc. Il faut pouvoir se confronter à un moment donné à un avis extérieur et pouvoir entendre, en fait, parce que des fois on n'a pas envie d'entendre les critiques et on
va se dire, c'est très important ce que tu dis, pouvoir l'accueillir, quoi, en faire quelque chose.
Tout à fait. Et pouvoir ne pas avoir peur de la remise en question, quoi.
Mais ça, je l'entends. Hein, tout du long de nos discussions, j'entends, que ce soit toi ou que ce soit toi avec Lisbeth dans ce projet-là, j'entends la recherche, l'exploration, la remise en question, attendre, laisser.
C'est ça.
Et j'ai l'impression que c'est un fameux message qu'on peut envoyer aux personnes qui écoutent, quoi. Parce que ça, c'est dommage.
Oui, non, tout à fait.
Effectivement.
Et il ne faut pas avoir peur de retravailler toujours et il ne faut pas se décourager. Enfin, il y a un côté... Et des fois, si même un avis va remettre tout en question, si on se pose cette question-là, il faut remettre tout en question. Même si ça revient à nous, le projet en question. Ma compagne avait fait toute une série d'illustrations. On avait fait ce truc de galerie de portraits. On a envoyé à des amis qui ont fait beaucoup de livres. C'est les auteurs, enfin, c'est l'autrice et le dessinateur du Petit Poilu, Pierre Bailly et Céline Frépon. Qui nous ont donné un premier feedback sur le livre qui était chouette, mais il y a ce côté, ils disaient il manque un peu le grain de folie, le truc, c'est super beau, mais il manque un peu ce truc du on a l'impression que c'est trop poli d'une certaine manière, etc. Ils l'ont très très bien enrobé parce que s'ils étaient très gentils, c'était un peu deux compliments pour un,
la méthode sandwich,
voilà, c'est ça. Mais le message est hyper fort passé et ma compagne a recommencé toutes ses illustrations de A à Z.
Tout ça, un chapeau.
Et ça, il faut avoir le courage de se dire, ok, c'est pas une petite, c'est, je vois ce qu'ils disent, je suis d'accord, donc faut que je refasse tout. Et ça, c'est difficile.
Ouais.
Et c'est pareil pour le texte. Quand on a pris conscience qu'on, et ça, c'est aussi nous notre meilleur retour, c'est notre fille, parce que au final, c'est elle qui
c'est
a lu le livre
routine,
et on voit quand elle rigole, on voit quand. Et du coup, c'est grâce aussi à elle qu'on s'est dit, ok, on voit les livres qu'elle aime bien, c'est quand il y a une aventure, quand il y a ça, et du coup, on prend des notes intérieures, on se dit, ça nourrit toute notre réflexion, et voilà, moi, il y a un moment donné où j'ai cru avoir fini d'écrire l'histoire, et en fait, non, j'avais pas écrit, j'avais écrit un tiers de l'histoire, il fallait maintenant incorporer ces galeries dans toute une histoire qui est beaucoup plus globale, créer des personnages, leur créer une substance,
une
personnalité. Les imaginer, vraiment, est-ce que la petite fille, elle est plutôt timide, extravertie, est-ce que la grand-mère, elle est comme ça, machin, donc vraiment recréer tout un truc, et ça a pris vraiment beaucoup de temps en plus, mais il faut et en fait, il faut avoir envie de le faire, il faut que ça reste un plaisir, et il ne faut pas être trop pressé de finir.
J'aime beaucoup ce que tu peux envoyer dans ce podcast, parce que voilà, quand on est dans cette démarche et qu'on la vit une fois, plusieurs fois, régulièrement, c'est des choses qu'on apprend à découvrir. Et qu'on apprend à maîtriser aussi, à apprivoiser plutôt. Mais je me dis ici, je sais qu'il y a des plumes fraîches quoi, qui écoutent, et je me dis c'est super qu'elles puissent très rapidement prendre la mesure de cette chose-là. Tu parlais de ta fille, une question qui me vient à l'esprit comme ça, c'est le fait que tu sois devenu papa et que tu vois ta fille évoluer qui t'a orienté vers ce choix du format jeunesse, ou ça n'a absolument rien à voir?
Je pense que si j'avais pas eu d'enfant, c'est possible quand même qu'on soit dirigé vers là, parce que ma compagne, c'est elle qui est la connexion entre moi et le livre jeunesse. Elle a édité une dizaine de livres jeunesse avant celui-ci. Et donc, j'ai vu ses livres, et même avant d'avoir une petite fille, elle a des tas de livres jeunesse qu'elle m'a montré, et je trouve la richesse de ce format est dingue, et il y a des livres qui sont vraiment incroyables au niveau graphique, au niveau des histoires, et donc peut-être, mais c'est vrai que le fait d'avoir évidemment un enfant, c'est quelque chose, c'est la meilleure des écoles pour pouvoir, en tout cas, je parlais de se sentir légitime tantôt par rapport au fait de se lancer dans une discipline, là, le fait d'avoir un enfant, j'ai l'impression que les années passées à son contact, surtout j'ai écrit la plupart de l'histoire aussi pendant cette période de confinement où on était beaucoup ensemble et tout ça.
Ça a dû jouer,
bien sûr. Le fait de lire tous ces livres avec elle, de voir ses réactions, c'est comme ça que j'ai appris. En tout cas, ce que moi, je considère comme marcher dans un bouquin. Ok, ce bouquin, elle est super parce qu'il a fait ça. Cette histoire-là, elle marche méga bien parce que ça. Tout ça, je l'ai emmagasiné et ça a été mon école pour pouvoir après me lancer dans l'écriture d'un livre, quoi.
C'est marrant parce qu'on revient à la légitimité, au fait que peut-être...
Plutôt la légitimité, l'apprentissage en tout cas. C'était mon école, c'est le fait d'observer ma fille réagir par rapport à l'illustration. Si j'avais pas eu de fille et que j'avais fait un livre, j'aurais pas eu de référence, donc j'aurais sûrement fait un livre différent et peut-être moins adapté, et peut-être moins... qui ont peut-être moins accroché ou pas. Mais en
ou
tout
pas,
cas,
voilà. Autre chose, en tout cas, c'est ça. Mais c'est intéressant parce que je revenais vers cette notion de légitimité parce qu'elle a été introduite au début du podcast et on va arriver tout doucement à la fin. Elle a popé à mon esprit parce que cet apprentissage, j'ai envie de dire naturel, spontané, et si c'est pas ça parfois qui suffisait aussi pour conférer une légitimité, tu vois, il y a les écoles, il y a les apprentissages scolaires, académiques, mais quelque part, je pense c'est aussi, je sais pas ce que t'en penses, s'il y a pas d'école d'écriture en Belgique, tu vois.
Non, c'est vrai.
Mais moi, j'ai fait les romanes, c'est ça aussi que mon activité, j'espère qu'elle peut aussi amener des choses humblement, c'est qu'il n'y a pas d'école d'écriture. On n'apprend pas en Belgique francophone à écrire des livres.
Ouais, c'est fou ça.
À Paris, ça commence. Et c'est, tu vois, je sais pas en musique en tout cas, mais ici en écriture, je sais qu'il y a plein de plumes qui sont à la recherche, à l'affût de est-ce que je peux le faire ? Est-ce que j'ai le droit de le faire ?
Ça, c'est
aux États-Unis, tu as les creative writing, tu as des majors aux universités. Donc, la légitimité pour faire vite tu es d'accord que finalement faire et trop contact, comment
c'est
tu vois
sûr,
ça
c'est
avec le recul maintenant.
Moi, j'ai étudié la communication,
mais
c'était des études au final plus le prolongement de d'études de secondaire où on apprenait un peu de tout et rien à fond. Donc, j'ai pas l'impression d'avoir appris quoi que ce soit de mes métiers via mes études. Mais la musique, c'est vraiment quelque chose qui s'apprend par essai erreur quand on l'a pas étudié. Donc, moi, j'ai pas étudié la musique. J'ai pas pris de cours, et, mais il y a des super bonnes écoles en Belgique pour pouvoir étudier la production, l'écriture, la musique pop, même le jazz, tout ça. Donc j'aurais pu, mais il se trouve que j'ai pas été vers là, quoi.
Et ceci dit, t'es là.
Oui, voilà, c'est ça. Mais après, c'est vraiment celle et ses erreurs. Et plus on se trompe, plus on devient bon. Donc,
Ça, c'est important d'entendre ça.
Ah ouais, mais moi, c'est ma philosophie de vie, quoi. C'est en me trompant que j'apprends. Donc, et je crois que là, c'est pareil ici pour le livre qu'on a fait. Il y a eu plein de versions et retravailler parce qu'après le feedback qu'on a eu des deux personnes dont j'ai parlé, on l'a envoyé à quelqu'un, enfin on a été le lire avec quelqu'un d'autre qui nous a donné d'autres feedbacks. On a retravaillé en fonction et puis on se disait ok, là on se sent confiant, mais c'est confronter ce laisser erreur, c'est hyper important.
Mais en fait, quand tu regardes, on parle des enfants, les enfants apprennent tellement de choses par essai erreur. On n'est pas en train de leur dire, mais en fait, comment t'as appris à marcher ?
Enfin,
tu
vois, c'est ça.
Donc, je me dis, finalement, c'est intéressant. Maintenant que tu as terminé ce projet, qu'il est vraiment dans les mains d'autres personnes, là, le lâcher prise s'est opéré, j'ai cru comprendre cet été. Bon, Lisbeth, elle a aussi ses propres projets, j'imagine, mais toi et l'écriture maintenant, ça dit quoi pour la suite, à ton avis ? Aujourd'hui, à cet instant, ça peut changer.
Toujours des albums, il y en aura toujours. Donc ça, l'écriture de chansons et de textes, ça ne me quittera pas à part, je ne sais pas quand, mais pas maintenant. Et j'ai commencé à écrire, à imaginer en tout cas une histoire pour un roman graphique. Ça, c'est vraiment ça, c'est mon rêve, on va dire. Donc je lis énormément de romans graphiques, donc des BD aussi, plus des romans graphiques. Et des romans aussi, c'est vraiment la lecture. Pour moi, c'est mon moyen de m'évader, de pas... Quand je regarde un film ou que là, je vais être attentif à plein de trucs, à l'image, parce que je suis assez sensible à ça, même à la musique des films et tout. Donc, il y aura toujours un moment d'analyse dans un film. Et dans la lecture, il y a zéro moment d'analyse. Je me laisse vraiment... Je me laisse partir et je réfléchis à rien. Et ça met mon cerveau en pause et ça lui fait énormément bien. Donc, je lis tous les jours romans et BD, donc et mon rêve serait de faire un roman graphique un jour, de pouvoir en écrire un. J'ai une idée d'histoire que j'ai commencé à découper, etc. Mais voilà, c'est un long travail. J'aimerais refaire un livre jeunesse avec ma compagne. Elle doit d'abord finir. Elle doit d'abord finir deux livres qu'elle a en cours pour l'instant. Deux autres projets qu'elle a en cours, et on s'est déjà dit qu'on referait ensemble.
Toujours
évidemment,
avec Lisbeth,
alors. Oui, de toute façon.
Ah, merveilleux.
En termes de livres jeunesse, je me vois mal en faire avec quelqu'un d'autre. Un roman graphique, j'ai un copain illustrateur qui est en train de... On aime tous les deux bien les histoires un peu policières et tout ça.
Ah ouais.
Et et lui était en train de terminer un roman graphique. Il m'a dit, toi, si t'as une bonne histoire d'un bon policier...
Voilà, si en plus on vient te chercher.
Et... Moi, je l'illustre et ça, donc on sait pourquoi pas. Mais non, ça reste vraiment au balbutiement, mais c'est quelque chose qui me plairait de finaliser quand même.
Je pose la question, j'avais presque envie de dire, je m'attendais à une forme de réponse, parce que pour le voir autour de moi, etc., j'ai envie de dire, quand tu as fini un projet littéraire, le seul risque que tu cours, c'est d'avoir envie de recommencer.
Oui, bien sûr, bien sûr.
Tant qu'on est dans cette vibration et ce que tu as projet de cette joie, de cet enthousiasme, etc. J'ai une dernière question. Parce que je dis, tant que je t'ai, c'est précieux, tu vis de ta vie d'artiste. Il y a toujours cette question aussi, quand on écrit, de se dire, c'est un choix à un moment donné de poser. Je vis aussi ma vie d'écrivain.
Ouais, ouais.
Tu la vis depuis longtemps, ta vie d'artiste, j'ai l'impression.
Oui, depuis toujours, en fait. Je suis sorti des études et tout de suite, j'ai travaillé dans un label de musique. Et puis après, très vite, j'ai eu le statut d'artiste parce que j'ai fait très vite pas mal de concerts. Et depuis, je fais des concerts du studio, plein de trucs. Et puis donc, tous les travaux de graphisme, de production pour d'autres artistes, d'écriture. Donc, il y a vraiment une espèce de melting pot de plein de trucs qui font que j'arrive à continuer à faire des trucs créatifs tous les jours. Mais si on n'avait pas ce truc du statut d'artiste en Belgique, je ne saurais pas vivre parce que j'aurais dû chercher
de pouvoir l'obtenir, effectivement. Qu'est-ce que tu peux envoyer, je ne sais pas, comme signal, comme conseil, comme quelqu'un qui a envie de se dire l'écriture, ça fait partie de ma vie, ça fera partie de ma vie toujours. Qu'est-ce que tu peux lui envoyer comme conseil en termes de accroche-toi ou, enfin, je ne sais pas, de garder ça, voilà, de maintenir ça dans sa vie d'une manière ou d'une autre.
C'est compliqué de généraliser un conseil à toutes sortes de personnalités parce que il y a certes, en fait, moi je pense que si on pose la question si on revient au début, que je pose la question à la personne, est-ce que tous les jours en te levant, t'as cette envie, ce besoin d'écrire et que c'est ça qui te rend heureux, il faut pas que tu lâches le truc parce que il faut que tu persévères le plus possible pour Et puis même si tu débutes et que tu as plein de choses à apprendre, si tu as cette envie et ce besoin, tu vas écrire tous les jours. Donc tu vas avoir ce truc d'essai d'erreur qui va se passer tous les jours, tu vas t'améliorer. Et puis un jour, tu pourras arriver à un résultat qui pourra être audible pour des professionnels de l'édition ou pour les lecteurs, etc. Et pour certaines personnes, ça va prendre 3 semaines parce que c'est des génies. Pour d'autres, ça va prendre 10 ans parce qu'ils vont devoir apprendre des choses qu'ils n'auront pas reçues pendant l'éducation. Enfin, il y a vraiment plein de données qui vont rentrer en compte, mais je crois que s'il y a ce besoin viscéral d'être dans la création, dans l'écriture, il ne faut jamais le lâcher, parce que le lâcher, ça viendrait à être malheureux, donc il ne faut jamais lâcher ce truc. Par contre, c'est marrant parce qu'on en... donc ma compagne est aussi... elle donne des cours dans une académie des beaux-arts. Et donc, elle est confrontée souvent à le début d'année des premières où il y a tous les élèves qui viennent et qui expliquent pourquoi ils veulent devenir illustrateurs et qui n'ont pas de carnet, qui ne vont jamais voir d'expo. La dernière fois qu'ils ont dessiné, c'était pour leur petit travail qu'ils ont dû faire en réto. Et il n'y a pas ce besoin viscéral de créer. Et du coup, la question est réellement, elle est légitime de poser, est-ce que tu es sûr que tu es au bon endroit ? Est-ce que tu es sûr que c'est ça que tu veux faire ? Pourquoi est-ce que tu veux faire ça ?
Que tard aussi,
et donc voilà, donc je vais pas dire à toutes les personnes, faut persévérer parce que tu vas y arriver. Non, s'il y a ce truc qui, si c'est ancré en toi, si c'est le truc qui te fait te lever le matin, il faut y aller. Et si à un moment donné, tu sais pas trop pourquoi, parce que enfin, toute personne n'est pas égale par rapport à ça en fait.
Bien sûr.
Et donc des fois, se poser vraiment la question si on n'y arrive pas et qu'on veut, il faut peut-être trouver son truc aussi. Il y a plein d'autres moyens d'expression qui sont possibles.
Et à nouveau, la remise en question.
C'est ça.
J'aime bien ce que tu amènes et j'aime surtout le fait que tu t'en parles de cette question pour amener beaucoup de nuances, beaucoup de pluralisme là-dedans, parce qu'effectivement, c'est tellement individuel. Mais là, tu as arrêté de choper quelque chose d'essentiel, j'ai l'impression. Merci beaucoup.
Tant mieux.
Écoute, j'ai envie de te poser encore plein de questions sur le livre, sur la musique, la composition, mais voilà, il faut bien s'arrêter à un moment donné. J'ai une dernière question qui est un peu la question gimmick qu'on sort à la fin de chaque épisode. Évidemment, par rapport aux mots, est-ce que toi, quand il y a des mots que tu entends ou que tu lis, parce que tu parles de lecture aussi, et que tu vois, que tu ressens, est-ce qu'il y a un mot ou des mots qui te délivrent, qui font que c'est... ça s'ouvre.
Je crois que il y a peut-être un truc qui est peut-être lié à mon enfance. Moi, j'ai grandi à la campagne et maintenant, je suis dans la ville. Et je sais que dans mon écriture, j'ai toujours eu un lien hyper étroit avec tout le champ lexical lié à la nature. Donc, que ce soit dans les écritures de texte, il y a beaucoup de métaphores liées aux éléments qui font que je peux parler d'émotions tout en les abordant par le prisme des éléments. Et dans mon écriture aussi, dans le bouquin qu'on a fait, le livre pour enfants, c'est aussi énormément... J'ai toujours cette envie de ramener ça au champ lexical de la nature et d'être plongé. Et c'est un truc qui moi, m'apaise hyper fort. Et je pense que si la question, c'est s'il y a des mots qui vraiment vont me faire me sentir bien, je crois que je vais aller vers un champ lexical lié à la nature, à tout ce qui est aux éléments, et que c'est un truc qui, en tout cas, chez moi, va me permettre d'ouvrir des portes et va m'emmener quelque part et aussi me faire me sentir au bon endroit.
On va garder éléments, nature, c'est très parlant aussi, je respire déjà mieux en les entendant également. Merci beaucoup, et en plus je prends au mot, c'est marrant parce que les personnes de ma communauté, les personnes avec lesquelles je travaille, je les appelle les plumes. Toi, c'est deux feathers, finalement, on peut terminer, boucler la boucle avec cette note aussi. Thomas, merci infiniment, c'était très riche.
Merci à toi pour la discussion, c'est super.
Voilà, cette petite bulle intime se referme. Merci à toi, belle page, blanche, brouillonne, bien écrite, d'avoir écouté. Merci à toi, belle plume, précoce, naïve ou affûtée, d'être curieuse et d'explorer. Si toi aussi tu veux te plonger dans l'univers magique et thérapeutique des mots, tu peux découvrir mes ateliers d'écriture et de bibliothérapie, ainsi que mes accompagnements individuels sur mon site internet, sur Facebook ou Instagram. On se retrouve bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, n'oublie pas. Respire et laisse les mots te délivrer.